Vous écoutez RTL.
Georges Brunier, votre invité ce matin, va nous aider à tenir nos promesses de la nouvelle année.
Bonjour Philippe Gabillier.
Bonjour.
Vous êtes professeur de psychologie à ESCP Europe, c'est une école de management.
Tout à fait.
Vous êtes aussi le vice-président de l'association Optimiste Sans Frontières. Alors on n'ose pas trop le dire, mais on prend tous, allez presque tous, une ou parfois plusieurs bonnes résolutions ce 1er janvier. Pourquoi ? C'est par pure tradition ou parce qu'on estime tous qu'on peut finalement s'améliorer?
Ah ben, je crois que les deux. Mmh. D'abord, il y a une vraie tradition, il y a une tradition historique. Il faut savoir qu'on a des traces comme ça, des bonnes résolutions de première année en Chine, même à Babylone, il y a 2 millénaires avant notre ère, on a des traces de gens qui prenaient à l'époque des bonnes résolutions. Malheureux, c'était généralement pour des raisons plus de voisinage. Par exemple, la grande résolution à Babylone, c'était de rendre le matériel agricole qu'on vous avait prêté pendant l'année, de payer ses dettes. Alors nous, maintenant, c'est devenu plutôt maigrir, se remettre à faire du sport, être plus facile à vivre, ça a changé. Mais c'est une tradition qu'on retrouve en fait au solstice d'hiver depuis des millénaires.
Alors qu'est-ce que dirait justement un psychologue ? Qu'est-ce que ça traduit ? Que l'on peut changer, que l'on doit changer ? C'est un besoin, ces bonnes résolutions ?
Alors justement, tout le problème est de savoir est-ce que c'est d'abord un besoin, est-ce que c'est un devoir ? Lorsque c'est un devoir, ça a tendance à pas très bien marcher. Parce que si je prends une bonne résolution uniquement pour faire plaisir à... On sait, nous, que 9 fois sur 10, ça marchera pas. Et alors, parfois, bien sûr, on décide de le faire parce que c'est aussi le 1er janvier, c'est un recommencement. On a deux dates clés comme ça, c'est le 1er janvier et puis souvent le début septembre, quand on revient des grandes vacances. Tiens, si je redémarrais sur des bonnes bases, si je faisais à la fois table rase d'un passé et je me pose des nouveaux jalons pour l'année qui vient.
Alors, justement, le rituel, c'est de se lancer des objectifs en général dès le 1er janvier. Mais est-ce qu'on ne devrait pas plutôt le faire, comme vous le disiez à l'instant, tout au long de l'année, petit à petit?
Oui, on devrait, mais c'est intéressant cet aspect rituel du 1er janvier. Parce que, si ça se trouve, on peut aussi partager des objectifs avec d'autres personnes qui ont, elles aussi, décidé de prendre des bonnes résolutions. Je suis sûr et certain, moi, que les salles de gym, moi, un pic d'inscription, les boîtes qui vendent des trucs pour faire des régimes, il y a un pic d'inscription au début janvier. Non, ça, en soi, c'est pas une mauvaise chose. La difficulté avec les bonnes résolutions, c'est que souvent, malheureusement, on en prend trop.
Alors, on va justement essayer de donner des conseils à nos auditeurs, voilà. Tant qu'à faire. Est-ce qu'il vaut mieux se dire, je vais faire du sport, je vais lire plus de livres, ou plutôt, je vais arrêter de grossir, je vais arrêter de regarder la télé, par exemple. Est-ce que le positif est un facteur important?
Ah oui. Le positif est un facteur d'autant plus important que le négatif, par définition, ne fonctionne pas. Par exemple, je vous donne un exemple. Si je vous demande, ne pensez pas à un rhinocéros. C'est trop tard. Vous voyez, ne pas penser à, c'est rentrer dedans. Ne pas penser à grossir, c'est penser à grossir. Donc, il faut véritablement positiver son projet et le cibler. Ça, c'est un premier conseil qu'on peut donner. Traduisez votre objectif en des termes les plus actifs et les plus positifs possibles.
Alors, moi, je vais essayer d'arrêter de penser au rhinocéros. La clé, c'est quoi? C'est une bonne résolution concrète, réaliste, faisable dans le temps. Il ne faut pas se lancer trop de défis, il ne faut pas être dans la performance, c'est ça?
Oui, et je crois que surtout, le mot-clé au départ, c'est choix, et surtout choix personnel. Beaucoup de gens, en fait, prennent des résolutions, mais ils ne se rendent pas compte qu'ils prennent, en fait, la résolution de quelqu'un d'autre. C'est-à-dire qu'ils sont sous la pression de leur entourage. T'es trop gros, tu fumes trop, fais du yoga. Bon. Et en fait, ça n'est pas moi. Donc, pour faire plaisir, je vais tenter deux, mais ça ne fonctionnera pas. Une bonne résolution, d'abord, effectivement, est une résolution. On en prend une vraie. Et quand on a une vraie résolution très puissante, ce qui va se passer, c'est qu'il y a tout un tas de mini-résolutions qui vont venir se greffer autour. Mais on a une espèce de noyau qui doit être sur un objectif particulier que l'on a choisi soi-même. Ça me fait plaisir, c'est un engagement pour moi, c'est pas obligatoirement pour les autres.
Alors, on dit souvent que les promesses n'engagent que ceux qui y croient. Est-ce que ça vaut aussi pour les bonnes résolutions? Il faut être honnête, en général, on en parlait tout à l'heure, dès le mois de février, soit on les a oubliés, soit on a déjà baissé les bras, non?
Oui, mais ça c'est souvent lié, comme je vous ai dit, au fait qu'on en prend trop. En revanche, il y a un vrai truc, c'est que quand on prend une bonne résolution, il y a un des moyens de tenir le coup, c'est de s'engager devant des tiers. C'est-à-dire qu'on choisit un certain nombre de gens qu'on aime bien, ou plutôt on choisit des gens à l'estime de qui on tient. Et on leur dit, voilà, tiens, je te le dis, voilà l'engagement que j'ai pris pour cette année, si jamais tu me prends flagrant délit de ne pas le tenir, t'as le droit de me traiter de tout,
de
me chambrer, de m'engueuler, etc.
Le problème, justement, c'est de tenir ces fameuses résolutions. Alors, il y a cette technique-là dont vous parliez à l'instant. Est-ce qu'il n'y a pas une recette magique? On colle un post-it sur un frigo, une feuille sur sa table de nuit, sur son bureau qu'on va regarder toute la journée. Ça peut marcher, ça, ou pas?
Il y a un vieux principe chez les Auvergnats qui est tout est bon dans le cochon. Ouais. Et ben, je veux dire, en matière de résolution, c'est exactement la même chose. Tout est bon. D'abord parce qu'on fonctionne fonctionnent pas tous de la même façon. Vous avez des gens, ils ont besoin, pour s'entretenir dans la motivation, d'y penser souvent. D'autres, ils vont avoir besoin d'en parler. Il y en a qui vont avoir besoin de tenir un journal. À la limite, peu importe, dès l'instant où on s'est trouvé la résolution qui nous concerne, je dis bien là, et qu'on décide pendant, on va dire, un mois, de, par tous les moyens, en parlant, en s'écrivant des mots à soi-même, on va tenter. Et si ça se trouve, alors ça ne veut pas dire qu'à 100% on réussira, parce que c'est pas si simple que ça, mais on peut considérablement augmenter ses chances de les tenir dès l'instant où on va taper, vous voyez, sur plusieurs canaux.
Et les bonnes résolutions à ne surtout pas prendre alors ?
Les bonnes résolutions à ne pas prendre, ce sont celles, encore une fois, celles qui nous sont imposées, celles auxquelles on ne croit pas, et alors j'insiste, celles qui sont totalement incohérentes avec notre style de vie. C'est-à-dire que vouloir faire, vous voyez, un régime rapide, efficace, alors qu'on est, simplement, on travaille dans un environnement où on doit manger au restaurant avec des clients quasiment tous les midis. Non, prendre des résolutions qui ne sont pas cohérentes avec notre style de vie, ça ne colle pas. En revanche, prendre la résolution dans un cadre comme ça, de s'alimenter différemment et de choisir différemment au restaurant ce que l'on va choisir, là c'est autre chose. Oui.
Merci Philippe Gabillier.
Merci beaucoup.
Alors tenez une bonne résolution pour 2014, pour tous nos auditeurs, ça pourrait être de lire votre livre « Éloge de la chance, l'art de reprendre sa vie en main », c'est aux éditions Saint-Simon. Bonne journée à vous, bonne journée à tous et surtout, très bonne année.
Bonne année aussi.